Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditorices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Bonjour Rokaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Comme vous le savez, ici on parle d'arabes, de noirs, de blancs, d'asiatiques, de musulmans, de juifs. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui nous tient très à cœur. Dans la lutte antiraciste, l'intersectionnalité, c'est-à-dire le fait de tenir compte de multiples oppressions, est centrale. Si des collectifs de femmes noires ou musulmanes se constituent logiquement, les réalités spécifiques des femmes originaires du nord de l'Afrique semblent diluées dans ces deux seules appréhensions. Pourtant, elles ne sont pas toutes musulmanes et ne se définissent pas nécessairement comme arabes. Par ailleurs, dans un contexte où un racisme violent sévit, comment dénoncer le sexisme intracommunautaire sans prêter le flanc aux préjugés racistes ? Être féministe et antiraciste de manière conséquente quand on est nord-africaine, c'est notre sujet aujourd'hui dans Kif Taras.
Et pour en parler, nous avons invité Lisa. Lisa, tu es étudiante en recherche littéraire et historique et militante féministe. Salut Lisa.
Salut Lisa.
Salut.
Tu as notamment cofondé le collectif Enta Rajal.
Exactement.
T'as vu, je l'ai bien dit.
De ouf.
Merci.
Ça donne envie d'adhérer. Mais je crois qu'on peut pas en fait. Tu vas nous dire pourquoi. Alors Lisa, dans Kif Taras, on a un petit rituel, on demande à nos invités s'ils ou elles se situent sur le plan racial. Par exemple, Grace est asiatique et je suis noire. Est-ce que toi, Lisa, tu te définis et si oui, comment ?
Bah, moi, je suis une femme d'origine nord-africaine à la peau claire et je suis musulmane et je porte le voile.
Et est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où ces appartenances t'ont sauté aux yeux en fait ?
Toute ma vie.
Il n'y a pas un moment déclencheur où tu t'en es aperçu, où ça a pris une signification particulière ?
Si, je pense que le moment où j'ai porté le voile, c'est un moment assez spécial qui a déclenché pas mal de choses.
Comme, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué ou
Je portais le voile, j'étais encore scolarisée en fin collège. Du coup, nécessairement, ça a enclenché pas mal de réactions de la part des équipes pédagogiques, que ce soit au collège ou au lycée, et c'est plus ça qui m'a marqué.
D'accord.
Et tu as pu suivre une scolarité sereine dans ces conditions ?
Alors, pas du tout. non, pas du tout. Et puis, je pensais qu'en plus, à la fin du lycée, ce serait passé en arrivant à la fac et justement en étant dans un univers plus adulte, etc. Mais pas du tout. À la fac aussi, ça a été extrêmement compliqué de porter le voile. D'autant plus que j'ai fait des études littéraires où j'étais la seule étudiante qui portait le voile. Donc non, scolarité, tout sauf apaisé.
Et je voulais poser une question par rapport au terme nord-africain que tu utilises volontiers, puisque on entend plein de termes, maghrébin, arabe,
berbère.
Voilà. Est-ce que toi, tu as une raison particulière pour utiliser le terme nord-africain plutôt qu'un autre ?
Ouais, alors on aurait plutôt tendance à désigner les pays d'Afrique du Nord comme étant le Maghreb, mais l'appellation Maghreb, c'est une appellation qui est arabo-centrée, dans le sens où... Enfin, en gros, le Maghreb, c'est depuis le Moyen-Orient qu'on perçoit l'Afrique du Nord comme étant le Maghreb. Et du coup, notre idée, en fait, à la base, de qualifier ces pays-là d'Afrique du Nord, c'était d'avoir un point de vue purement géographique et peut-être aussi un point de vue un petit peu moins arabo-centré et un petit peu plus tourné vers l'Afrique.
Alors, on va parler de ce collectif, justement. En 2018, le hashtag Enta Rajal fait son apparition sur Twitter. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifiait et d'où est venue cette apparition.
Alors, Ntarajel, littéralement, ça signifie... C'est une question, déjà. Donc, ça signifie, t'es un homme, toi. Donc, est-ce que t'es un homme? Donc, c'est une question qui est extrêmement insolente, très populaire en Afrique du Nord. Donc, c'est de l'arabe d'Aléja. Et
l'arabe d'Aléja, tu peux expliquer pour... C'est ouais. l'arabe dialectal, en fait.
C'est l'arabe, oui, voilà.
Enfin, entre guillemets, parce que dialecte, c'est toujours une question aussi de... Oui. Un peu mépris linguistique, quoi.
C'est
mais...
ça. Donc, c'est l'arabe parlé d'Aléja marocain, algérien, etc. Et donc c'est une phrase qui est très insolente, très ironique aussi, et qui renvoie en fait, qui questionne les hommes sur leur masculinité. Donc en gros, c'est tu fais défaut à ta masculinité, tu fais défaut à tes engagements et à tes obligations d'homme, donc tu n'es pas un homme. Et donc nous, on se l'a approprié de façon très ironique, parce que c'est une phrase aussi qui horripile les hommes. Et donc c'est comme ça qu'on avait lancé un hashtag en 2018, comme tu l'as dit. Et donc à la base, on n'est pas forcément... pour vocation de créer un collectif ou quoi que ce soit. Mais les choses ont pris de l'ampleur et c'est vite devenu nécessaire.
Et en fait, qu'est-ce qu'il y avait derrière ce hashtag et pourquoi justement vous vouliez interpeller les hommes? Est-ce qu'il y avait un élément déclencheur? Est-ce qu'il y avait vraiment un message que vous vouliez remettre en question?
En fait, l'élément déclencheur, c'était vraiment le fait qu'il manquait justement une réponse à la fois antiraciste et féministe pour ce qui concerne les femmes nord-africaines. On est très, très souvent invités à littéralement se sacrifier, en fait, et à laisser de côté nos engagements féministes et nos revendications féministes, nos revendications en tant que femmes, pas uniquement, mais principalement en tant que femmes, pour se consacrer uniquement à la lutte antiraciste, parce que ce serait ça la vraie question, etc.
Et quand tu dis « on », c'est cette pression vient d'où? Et pourquoi, à ce moment-là, c'était important de le dénoncer? C'est-à-dire que, est-ce que c'était posé la question, justement, d'un sexisme qui toucherait les femmes nord-africaines, mais de la part d'hommes d'origine nord-africaine, ou est-ce que c'était autre chose?
Ben, je pense que c'était un peu ça, c'était une prise de conscience du fait que les sexismes qui nous visaient, donc il vient évidemment du patriarcat et des agents du patriarcat, donc des hommes en général, mais on s'est rendu compte que c'était extrêmement compliqué de lutter contre le racisme avec des hommes qui étaient effectivement sexistes à notre égard.
Alors ensuite, ce hashtag est devenu collectif. Il y a beaucoup de gens qui ont participé, qui ont utilisé l'hashtag, et vous avez formé donc un groupe, et vous avez voulu vous rassembler pour vous rencontrer en vrai. Et là, il y a eu un petit souci, c'est-à-dire que vous avez annoncé l'événement et ça a été très enthousiaste, en fait, la réponse, mais pas dans le sens que tu espérais. Est-ce que tu peux nous raconter cette annonce d'événement et ensuite qui a donné lieu à un cyberharcèlement sur ta personne et sur peut-être d'autres?
Ouais, alors du coup, l'événement, on l'avait annoncé. Bon, déjà, on a mis pas mal de temps à structurer le collectif et à pouvoir faire une première rencontre, donc plusieurs mois. Et quand on a lancé l'événement, en fait, ça a déclenché énormément de violence, notamment en ligne, comme tu l'as dit. Donc, ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'il y a eu une convergence entre les hommes musulmans, nord-africains musulmans, qui s'insurgeaient parce qu'on s'organisait sans eux et que l'événement était en non-mixité, et les suprémacistes blancs.
Qui, eux, regrettaient la non-mixité sexuée, enfin, de genre, et d'autres qui regrettaient la non-mixité raciale.
C'est ça.
Donc, c'était pas que interdit aux blancs. C'était
interdit aux hommes.
Aux hommes,
et aux hommes de toutes les origines.
Voilà.
Et aux personnes blanches.
Enfin, c'était réservé aux femmes.
C'est ça, parce que c'est pas interdit. Ah, c'est
ouais,
plus
c'est
réservé.
Non, c'était réservé aux femmes et aux minorités de genre, nord-africaines, nord-africaines.
Alors, juste pour faire un petit point non-mixité, parce que...
Oui, parce que c'est un sujet c'est ça, qui agite vraiment. À chaque fois qu'il y a un événement qui est annoncé en non-mixité... Là, je pense qu'il y a...
Ça crucifie des polémiques, alors que ça existe depuis très longtemps. Ouais, c'est ça. Ça existe depuis très longtemps. On comprend très bien pourquoi les femmes de toutes origines ont besoin de se réunir entre femmes pour parler de violences sexistes et sexuelles, parce que leur parole est plus libre. C'est la même chose pour les personnes qui sont défavorablement racisées. Et là, il s'agissait de libérer la parole de femmes d'origine nord-africaine. Donc, est-ce que tu peux nous décrire cette alliance, justement, entre des personnes, à la fois des hommes d'origine nord-africaine, musulmans, et puis des identitaires blancs, suprémacistes même blancs, je crois.
Ouais. Ouais. Donc moi j'ai été très étonnée parce que c'est des hommes qui ont pour habitude en fait de se détester et de s'entre-harceler sur les réseaux, et pour le coup ce jour-là ils étaient d'accord, et en fait je me suis rendu compte un peu à quel point le patriarcat pouvait réunir les hommes bien qu'ils se posaient sur d'autres questions, et ça m'avait assez frappée à l'époque, et je pense que ça a été un tournant justement dans ma compréhension des dynamiques patriarcales et de la façon dont les hommes sont prêts à tout parfois pour défendre leurs intérêts et leurs privilèges d'hommes.
Et en fait, il y avait vraiment un moment particulièrement choquant où un responsable associatif musulman, en fait, assez connu, dont l'association a été dissoute il n'y a pas très longtemps, et ce n'est pas celui qu'on a reçu, donc juste pour qu'on soit très clair. Et donc, en fait, il a interpellé un membre de Génération Identitaire sous le tweet en fait, où vous annonciez votre réunion en non-mixité, et il lui a dit « On y va, Damien ».
Exactement.
En gros, ouais. c'est incroyable. C'est-à-dire que ce Damien en question est son ennemi de toujours et veut littéralement sa disparition, en tout cas de la sphère publique. Et là, ils ont trouvé une connexion pour, en fait, d'une certaine manière, nuire à votre réunion. Quoi.
C'est-à-dire qu'ils font bloc. Il y a une solidarité qui se crée parce qu'en face, il y a l'ennemi. Et c'est, l'ennemi serait donc les femmes qui se revendiquent nord-africaines. Et donc là, ça crée une espèce d'alliance en fait, entre des personnes que tout oppose dans la vie.
Ouais, c'est ça, ça crée une alliance. Et puis derrière, il y a des propos extrêmement graves. Ça a appelé à tirer dans le tas que sont les féministes musulmanes. Et justement, en fait, c'est là que j'ai lu pas mal d'hommes musulmans qui prenaient position en disant que les féministes musulmanes étaient bien plus détestables que les autres féministes, dans le sens où nous, on avait l'audace d'utiliser le Coran à des fins féministes, c'est-à-dire à des fins de libération et à des fins de justice. Et je pense que c'est ça aussi qui cristallisait le truc. C'est le fait qu'en fait, j'étais la plus visible du collectif et que je portais le voile et...
Bah, c'est comme si le Coran, d'une certaine manière, l'interprétation du Coran n'appartenait qu'aux hommes. Quoi. C'est ce qu'il disait de manière implicite.
Complètement.
Donc malgré ces tentatives d'intimidation, la réunion a eu lieu. Un premier événement a vu le jour le 17 février 2019. Et ça a été un carton plein. Enfin, vous avez eu énormément de retours, une soixantaine de personnes qui ont décidé d'y aller. Et puis une liste d'attente assez longue. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Et qu'est-ce qui a permis finalement cette première réunion?
Alors, on ne s'attendait pas du tout à ça. On a été extrêmement impressionnés et dépassés par l'ampleur des événements, en fait. Surtout qu'on était une très petite équipe à l'époque. Et en fait, ce que ça a permis de faire, je pense, c'est déjà de confirmer la nécessité de ce féminisme, dont on avait déjà conscience en tant que femme nord-africaine. Mais là, pour le coup, on a compris qu'on n'était pas les seules. Et ça a permis aussi, je pense, de pointer du doigt les sujets qui étaient nécessaires de réfléchir. Donc, notamment le sexisme intracommunautaire, notamment les racismes intercommunautaires, des sujets qui sont généralement délaissés, beaucoup de choses qui tournaient autour de la sexualité aussi, etc.
Et par rapport à d'autres femmes minoritaires, est-ce qu'il y avait des choses justement qui vous semblaient invisibilisées ou spécifiques qu'on n'observait pas forcément dans les regroupements de femmes noires, ou de femmes asiatiques ou de femmes roms?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses en commun entre les différentes femmes racisées. Le fait de vivre le sexisme et le racisme de façon croisée, ça implique forcément des situations similaires. Mais je pense qu'après, il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en compte. Et ça amène forcément des logiques très singulières. Donc, on peut observer beaucoup de choses similaires entre l'afroféminisme, par exemple, et le féminisme nord-africain, le féminisme musulman. Mais l'ancrage n'est pas le même, le contexte n'est pas le même, l'histoire n'est pas la même, le rapport au corps n'est pas le même, etc.
Par rapport au terme féminisme, tu as écrit un texte où tu évoques le féminisme de ta grand-mère en Kabylie. Elle n'utilisait pas ce mot. J'aimerais lire un extrait de ton texte parce que je le trouve très beau. C'est un texte qui a été publié dans Women Who Do Stuff, un magazine. Nos aïeules ne se disaient pas féministes, mais leurs vies ont été noyées dans des résistances quotidiennes, faites d'immigration, d'exploitation capitaliste, raciste et patriarcale. Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que nous trahissons nos mémoires, notre héritage culturel, politique, voire religieux lorsque nous arpentons le chemin du féminisme. Or, bien au contraire. Nous perpétuons les résistances historiques des peuples nord-africains, nous perpétuons et tentons de faire nos résistances quotidiennes des projets collectifs et donc politiques. J'ai fait une petite parenthèse. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu perpétues, toi, le féminisme à ta manière, celui de ta grand-mère kabyle? Il y a des femmes qui ne veulent pas se dire féministes parce que le mot féministe serait approprié par les femmes blanches. C'est ce qu'on appelle le white feminism aux États-Unis, donc le féminisme blanc qui n'est pas le féministe des personnes blanches, mais qui serait un féminisme qui serait empreint d'impérialisme et qui serait exclusif, donc qui exclurait des populations, notamment non blanches.
Ouais, c'est ça. Et moi-même, en fait, dans ma trajectoire, j'ai eu des moments de doute, en fait, à me qualifier de féministe. Il y a un moment où je me suis dit, elles sont quand même bizarres, ces féministes, à vouloir m'empêcher de porter le voile, c'est quoi ce truc? Enfin, c'est chelou, quand même.
C'est pas très émancipateur, non?
Ouais, j'étais en mode, mais moi, enfin... Mon père, il voulait pas que je le fasse. Je l'ai fait, c'est pas toi qui vas décider pour moi. Bref. Et du coup, en fait, j'avais aussi une espèce de quête d'autres icônes féministes que je cherchais dans le paysage français. Donc après, voilà, il y avait pas mal de femmes musulmanes visibles féministes de générations qui m'ont précédée. Donc j'ai pu retrouver ces icônes-là. Mais plus tard, en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin d'aller chercher des icônes et que c'était pas forcément le truc le plus essentiel, dans le sens où, en fait, dans mon histoire familiale, déjà, je pense que c'est le cas dans quasiment toutes nos histoires familiales, les femmes ont eu des vies, en fait, émancipatrices. Les femmes ont mené des luttes à leur échelle, donc à des échelles, voilà, plus ou moins grandes. Et ma grand-mère, c'était le cas, en fait. Genre, juste le fait de survivre à un tas de violences, à la guerre d'indépendance, à la décennie noire, à tout ce qui peut suivre, à toutes ces violences patriarcales, et le fait de continuer comme ça à vivre, en fait, et espérer, et mettre des rires partout, de la poésie partout. Enfin, pour moi, c'est ça, la résistance. Et je trouve que c'est incroyable comment on a tendance à aller chercher, justement, des icônes dans des luttes très lointaines, alors qu'en fait, il suffit de regarder un peu ce qui se passe devant soi. Et c'est pareil pour mes grand-tantes. J'ai des grand-tantes, en fait, qui sont ultra badass. Genre, c'est des trucs de ouf, les vies qu'elles ont menées. Elles sont hyper émancipées. Personne ne leur dicte quoi que ce soit. Et c'est ça, mes modèles féministes. Et je pense qu'on en a toutes autour de nous.
Bah, y a un peu ce préjugé selon lequel le féminisme serait l'apanage des femmes des pays dits occidentaux et que finalement, le fait d'embrasser de manière explicite le féminisme serait une forme de trahison par rapport à une culture qui ne le serait pas. Alors qu'en réalité, bah, on peut vraiment ouvrir ce parapluie de ce qu'on appelle féministe pour reconnaître que des femmes ont été féministes avant même que le mot, d'ailleurs, n'existe et ce partout. Et que finalement, les références, elles sont multiples. Et ça, c'est aussi, je pense, important quand on est une femme minoritaire de pouvoir inscrire son patrimoine familial, culturel, dans ces luttes d'émancipation et de ne pas laisser entendre que c'est forcément les Lumières de la République qui sont la seule source possible d'émancipation intellectuelle et même en termes de liberté, quoi.
Et je trouve que par rapport aux préjugés, les femmes nord-africaines partagent avec, par exemple, les femmes asiatiques, mais je pense d'autres femmes, ce préjugé de la soumission. C'est très fort et malgré les faits que tu viens de citer, des femmes qui ont fait des choses, des femmes dans nos familles dont on sait qu'elles ont fait des choses, ce cliché est très fort et il va revenir, on nous perçoit comme soumises ou dociles à cause de notre faciès, notre physique, toi peut-être un détail vestimentaire qui serait le foulard que tu portes ou voilà, la perception que les gens ont de toi, de ta race sociale. Et ça va prendre le pas sur tous les faits et toute l'histoire qui est documentée et qui peut être consultée. C'est vraiment difficile de que les faits, que l'objectivité, voilà, triomphe dans ces préjugés.
Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce préjugé pour les femmes nord-africaines ou pour les femmes asiatiques de silence, tu vois, de femmes silencieuses et de femmes très en retrait qui, du coup, fait qu'on n'arrive pas à reconnaître, en fait, l'existence de femmes malgré, enfin, je veux dire, on a quand même eu ce conflit majeur entre la France et l'Algérie qui a donné lieu à plein de mobilisations très visibles et des noms connus, mais le préjugé reste super ancré. C'est pareil en Asie, les noms sont moins connus, mais il y a eu énormément de résistance pendant que ce soit la guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam, etc., mais de résistance féminine, mais c'est vrai qu'il y a ce préjugé-là qui est vraiment antagoniste avec le préjugé des femmes noires, qui est l'extrême inverse. C'est-à-dire que les femmes noires, elles sont vraiment perçues comme des femmes particulièrement agressives, en fait, et pas du tout silencieuses, et au contraire, très en affirmation, en bruit, etc. C'est intéressant de voir que finalement, la même démarche ne va pas du tout être saisie de la même manière, quoi.
Ouais, mais je trouve que c'est un rapport au silence aussi qui est très problématique, dans le sens où on va forcément assimiler le silence à une forme de soumission, alors que parfois c'est une forme de résilience, une forme de résistance. Moi, je sais que ma mère, par exemple, c'est quelqu'un de très discret. Et au regard de sa vie, au regard de sa position, de comment elle agit, etc., on pourrait se dire, ouais, c'est une femme passive, qui n'est pas forte, qui n'est pas féministe, etc. Mais quand je réfléchis, en fait, à la vie qu'elle a voulu offrir à ses filles, c'est là que le féminisme, en fait, c'est là que le changement très concret pour le coup, et qui est aussi l'engagement. Donc, je pense qu'il y a un rapport au silence quand même à décentrer, peut-être.
Ça, c'est un revers du féminisme, de considérer que parler fort, ce serait une force, forcément.
Exactement.
Pour les femmes. Mmh. Donc ça, c'est plaquer tout ce qu'on valorise chez l'homme, c'est-à-dire qu'il soit puissant, qu'il prenne de la place. On a l'impression qu'on le plaque sur les femmes en disant, bah, si t'es forte, alors tu vas réagir exactement comme un homme. Et c'est pas du tout ça, être féministe, t'as pas qu'une forme, le féminisme.
Exactement, et puis de toute façon, le silence pendant la guerre, c'est une vertu, quoi. Si tu ne révèles pas les secrets du camp que tu défends, c'est une force, en fait. C'est une force, le fait de pas dire les choses, le fait de pas révéler aux colons, notamment, un certain nombre de secrets, de stratégies, etc., et d'avoir l'air, justement, d'être la personne complètement insignifiante que tu n'es pas en réalité, c'est aussi un atout, c'est aussi une stratégie de combat et de résistance. Donc, c'est vraiment une interprétation complètement monolithique de la féminité, de la masculinité, de l'affirmation de soi, quoi. Donc, on l'a dit, Intarlagel est un collectif.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 milieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Comment devenir un ou une meilleure alliée de la lutte antiraciste ? Comment se confronter à ses privilèges en tant que personne blanche ? Chez Binge Audio Édition, on sort « Mécanique du privilège blanc », un livre d'éducation antiraciste pour proposer des outils concrets à toute personne qui souhaite se confronter à ses privilèges. Le livre est signé Estelle Depri, qui anime depuis des années la page Instagram « Semblant de rien », sur laquelle elle produit du contenu antiraciste qui permet à chacun et chacune de devenir un meilleur allié. Vous êtes déjà plus de 2000 à avoir précommandé. Grâce à vous, on a dépassé notre objectif. Il ne vous reste que quelques jours pour commander vous aussi votre exemplaire. Rendez-vous sur ulule.com/mécanique-du-privilège-blanc ou sur le compte Instagram de Binge Audio Édition.
Intersectionnel, pardon, qui a à cœur la défense des droits des personnes nord-africaines qui sont LGBTQIA+. Vous avez produit un texte qui s'appelle « Queer nord-africain-nord-africaine contre les crimes et les violences policières ». Comment est née cette démarche et pourquoi cet engagement spécifique contre les violences policières ?
Alors, en fait, ce texte, il s'inscrit dans un contexte spécifique où il y avait justement beaucoup de choses liées aux violences policières, où il y avait des mobilisations. Et on a, il y a aussi beaucoup de pinkwashing dans la société. Donc vraiment, cette idée selon laquelle les Arabes et les Noirs seraient des dangers pour les personnes LGBTQ+, pour les femmes. Et du coup, ça viendrait justifier les violences qui pourraient viser donc, les hommes arabes et noirs, en l'occurrence. Et donc, pour nous, en fait, c'était une évidence de se positionner en tant que personne LGBTQ+, en fait, sur ces questions-là, pour justement mettre en avant la nécessaire convergence entre ces luttes, donc contre les violences policières et contre ces violences qui visaient les personnes LGBTQ+.
Et donc oui, c'est vraiment, et en même temps de montrer que le collectif était inclusif, et donc du coup avait pas du tout vocation, avait vocation à reconnaître toute la complexité
complètement.
Voilà, des identités qui peuvent être celles des personnes nord-africaines, qu'elles soient musulmanes ou non, qu'elles soient queer, trans, cis, etc. etc. Et donc c'est aussi cette affirmation-là, parce que souvent c'est une forme de complexité qui est perçue comme une forme, dans certains mouvements, comme une forme de démission par rapport à des catégories qui seraient strictement occidentales, alors que c'est pas le cas.
Et vous saluez dans votre texte le mouvement Black Lives Matter, qui a été initié par trois femmes noires, dont deux femmes queer, Alicia Garza, Patrice Cullors et Opal Tometi. Et ça aussi, c'est un rappel qui est important, c'est-à-dire que les avancées des mouvements, quels qu'ils soient, de progrès social, ont été beaucoup impulsées par des mouvements queer et perpétués. Et souvent, quand l'homophobie ambiante, elle va effacer ces apports, ces pierres qui sont posées. Quand on pense à BLM, évidemment, on pense aux souffrances des personnes noires aux États-Unis et aussi en France. Mais c'est important de rappeler que toutes ces luttes-là sont imbriquées et que ces personnes-là avancent ensemble et qu'on est, comme on est intersectionnel, nos vies sont intersectionnelles, on ne peut pas juste être noir un jour et être queer un autre. Alors, on va parler d'un sujet qui aussi on aborde souvent, c'est la fétichisation des corps. Et en 2019, vous avez lancé le hashtag « Pas vos beurettes » sur les réseaux contre la fétichisation des femmes nord-africaines et les violences nombreuses qui en découlent. Donc il y avait un sondage du site pornographique Ex Hamster qui avait tweeté « Vive la beurette ».
Décomplexion.
Ouais. Et ils avaient publié un top 10 des recherches sur Internet, parmi lesquelles donc, la première position, c'est beurette. Le terme le plus recherché, c'est beurette. Et plus loin, marocaine, arabe et même viol. Donc, désolé, trigger warning. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez formulé cette campagne ?
Ouais, alors, on savait déjà que les femmes nord-africaines étaient visées par une hypersexualisation bien spécifique, bien racialisée. Mais quand on a vu ce vive la beurette, là, on s'est dit, mais là...
Ils prennent un peu la confiance, là, ils sont trop à l'aise.
Doucement, les gars. Genre, on s'est dit, non, quand même pas.
Vous la voyez pas, mais Lisa, elle a fait un geste là de.
C'est un geste des mains là, mais genre ça va, pas... ça va trop loin là.
C'est... On est fatigué en fait.
C'est ça. Soyez raciste, mais un peu respectueux quoi.
T'as des limites. Non, franchement, ça, c'était, c'était abusé. Donc, on s'est dit, on réagit quand même, parce que c'est vraiment abusé. On n'est pas trop dans la réaction et tout, mais là, on s'est dit que c'était peut-être justement l'occasion, le moment de montrer à quel point cette hypersexualisation était totalement décomplexée dans la société. Et du coup, on a fait cette tribune où on rappelle en fait que les fantasmes ne tombent pas du ciel, en fait, et qui sont des constructions sociales. Donc, le fait que viol apparaisse, comme tu l'as dit, c'est bien significatif de la culture du viol qui emprunte notre société. Et le fait que Beurette soit dans le top, ça renvoie justement à la manière dont on perçoit les femmes nord-africaines, à la manière dont on veut se saisir de leur corps et à toute la rhétorique de libération des femmes par la sexualité, etc.
Et justement, le truc avec ce terme Beurette, c'est vrai qu'on pense à la domination blanche sur le corps des femmes nord-africaines, mais en vérité, c'est un terme qui est aussi utilisé par des hommes nord-africains comme un outil d'évaluation de leur respectabilité. Donc, c'est parmi les gens qui recherchent sur les sites porno, il y a aussi énormément d'hommes nord-africains. Donc, du coup, c'est pas seulement une opération qui est destinée à signaler aux hommes blancs le fait que leur corps n'appartienne, enfin, les corps des femmes non-blanches ne leur appartiennent pas, mais aussi il y a vraiment une démarche intracommunautaire. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça?
Oui, complètement. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que Beurette, donc c'est dans la société en général, et donc là, ça vient de tous les hommes, de tous les espaces sociaux. Donc, ça va désigner les femmes nord-africaines en général dans le but de les sexualiser. Mais on s'est rendu compte que dans un cadre intracommunautaire, ça permettait de séparer les bonnes des mauvaises. Donc, les femmes bien des femmes pas bien, les beurettes d'un côté, les voilées de l'autre, les femmes pures et les femmes impures. Et donc, l'idée, en fait, c'était vraiment de dire... Mais rien ne va. Genre, ni d'un côté, ni de l'autre. Ça va pas du tout. On n'est pas vos beurettes, on n'est pas vos voilées. En fait, on est nous-mêmes, quoi. Ouais. Et nos corps n'appartiennent qu'à nous-mêmes. On n'avait pas besoin qu'on nous libère. On n'a pas besoin non plus qu'on nous trace, en fait, quelle ligne suivre pour être respectable.
Ouais, qu'on vous dise comment vous comportez.
Et c'est comme vous. Enfin, tu le dis sur le site d'Anne Tarachel, vous dites que. Votre réaction par rapport à ce mot « beurette », c'est pas pour empêcher les femmes d'avoir des relations sexuelles, de faire ce qu'elles veulent de leur corps, mais c'est l'instrumentalisation de ce terme pour les déshumaniser et pour les classer, en fait. Il y a une catégorisation des femmes avec ce terme, et c'est ça que vous déplorez, et pas la liberté des femmes à disposer de leur corps.
Complètement.
Ça, c'est important aussi, parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois on dit « on s'élève contre quelque chose », c'est
le puritanisme. C'est la cancel culture.
J'imagine, c'est comment dire, la religion qui s'empare de vous.
Ouais. Ça, on imagine les trucs, tu sais, en Afghanistan, la police des mœurs là, qui vient qui vient expliquer non, c'est pas bien, c'est haram.
Non, c'est
pas du
ça.
Tout ça, en fait. C'est pas un jugement de la pornographie en général, mais c'est le fait que des hommes, encore une fois, s'octroient le droit de classer les femmes en dépit de leurs choix individuels qui sont complètement libres, quoi. Et du coup, ça nous emmène aussi à une autre question sur laquelle on aimerait vraiment s'arrêter aujourd'hui, c'est la question des violences sexuelles et des violences sexistes. En février 2018, une femme musulmane pakistanaise a raconté sur les réseaux sociaux qu'elle avait été sexuellement agressée lors de son pèlerinage à la Mecque. Le poste a été effacé, mais la journaliste égyptienne-américaine Mona El-Tahawi a décidé de raconter le viol en fait, qu'elle a subi, en tout cas l'agression sexuelle qu'elle a subie quand elle était adolescente et qu'elle a fait son pèlerinage à la Mecque. Et elle a créé le hashtag MosqueeMeToo. Et donc, elle a demandé sur Twitter, elle a posé cette question, qui veut parler des agressions sexuelles dans les lieux saints? De nombreux témoignages ont fait suite, et pourtant, ça reste extrêmement complexe de s'exprimer sur la manière dont les espaces qui sont des espaces religieux peuvent être le lieu d'agressions sexuelles. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as reçu ce hashtag, que tu avais suivi toute la campagne autour de ce hashtag, et puis comment Ntalajel ou toi se sont emparés de cette question-là?
Ouais, je me rappelle de cette campagne et je n'avais pas forcément réagi à l'époque pour des raisons personnelles. On va dire que c'était pas le moment pour moi de réagir à ce genre de choses. Mais de façon plus générale, en fait, ce qu'on constate, c'est que effectivement, c'est extrêmement difficile de parler des violences, notamment sexuelles, qui peuvent avoir lieu dans des mosquées et notamment à La Mecque, en fait, puisque la majorité des mosquées, en tout cas en France, ne sont pas mixtes. Donc, si on veut, ça évite un certain problème qui peuvent être liés aux violences sexuelles. En revanche, La Mecque, c'est mixte. Et les récits de violences sexuelles à La Mecque, ils sont extrêmement nombreux. Et ça pose un problème, parce qu'à partir du moment où on les dénonce, on nous explique que ça porte atteinte à la communauté, que ça porte atteinte à notre image, à l'image de l'islam, enfin bref, tout ce genre de choses. Et donc, en fait, nous, on estime en fait qu'au contraire, il est nécessaire d'en parler. Et on trouve ça extrêmement regrettable, en fait, le fait que la majorité de la communauté préfère tourner le dos à ce genre de questions et préfère refuser de voir en face les problèmes qui peuvent se poser. On a eu le cas récemment en France avec des affaires, notamment à Montpellier.
On va en parler.
Et beaucoup de gens, en fait, ont préféré ne pas réagir, alors que c'est plus que nécessaire. Et c'est notre rôle, en fait, de prendre en charge ce type de violence et de soutenir les victimes et de soutenir le fait d'ouvrir la parole et de soutenir aussi derrière ce qui peut impliquer donc des prises en charge psychologiques, etc., afin de se porter en tant que soutien des victimes sur tous les plans.
Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait une espèce de conflit de loyauté entre des gens qui se disent qu'on doit préserver l'image de l'islam dans un pays où la religion est extrêmement critiquée, sans cesse questionnée, etc. Et la question évidente de la priorité de la préservation de l'intégrité physique des femmes qui, elles aussi, aspirent à pouvoir jouir des espaces religieux. Donc, et c'est vrai que les gens en fait, préfèrent ne pas en parler parce qu'ils ont l'impression que si on attaque le lieu le plus sacré de l'islam, qui est la Mecque en Arabie Saoudite, on attaque l'islam et en fait, on préfère mettre les intérêts des victimes au second plan. Et du coup, je sais que tu as réagi, on va parler à l'instant de la question qui s'est passée à Montpellier, mais de manière générale, qu'est-ce qu'on te répond? Qu'est-ce qu'on te dit, en fait? Est-ce qu'on te répond? Est-ce qu'on te dit mais que tu nuis, d'une certaine manière, aux musulmans en prenant la parole sur ça?
Ouais, c'est ça, en fait. On nous explique qu'on nuit à l'islam. Alors, je ne sais pas qui je suis, moi, pour nuire à l'islam. Hein. Je trouve ça très compliqué, moi, de nuire à l'islam. Donc, on nous explique qu'on nuit à l'islam, qu'on nuit à l'image de la communauté et que, du coup, on entretient le racisme. Donc, comme si le racisme avait besoin de raison, en fait, tout simplement.
C'est vrai.
Enfin, le racisme était l'avant, ouais, il sera l'après. Ouais,
bien sûr. Il s'empare de tout ce qui existe. Ou, voilà, c'est pas la peine, vous n'avez pas besoin de ça.
C'est ça. Et puis, donc, ouais, c'est ça, en fait. On nous reproche vraiment d'être des traîtresses, de porter atteinte à notre dignité commune, etc. Alors que c'est tout l'inverse, en fait. Ce qui s'opère, c'est que justement, le fait de laisser de côté ces questions-là, en fait, c'est les laisser justement aux racistes. Il n'y a plus que les racistes qui en parlent. Mm. En fait, tu veux chercher des choses sur la communauté musulmane et sur les violences sexuelles dans la communauté musulmane, tu vas avoir que des articles quasiment de Valeurs Actuelles, etc. Et donc, c'est extrêmement dommage. C'est comme ça qu'on leur laisse le terrain.
C'est ça, et puis ouais, ça empêche les femmes tout simplement d'accéder à des espaces qui leur sont aussi dédiés. Quoi.
Il y a une injonction à, tu sais, ne pas laver le linge sale hors de la famille, mais en réalité, on ne le lave pas du tout, c'est-à-dire qu'il reste sale. Et finalement, il n'y a que les gens de dehors qui voient que c'est sale et qui nous disent « regardez comment ils sont chez eux ».
C'est exactement ça.
Et c'est ça en fait que ça alimente une perception biaisée et fausse des violences au sein des communautés. Et alors, quand on rajoute en plus une autre couche qui est celle de la famille, c'est-à-dire qu'il y a eu le MeToo inceste récemment, donc là, quand on rajoute une couche supplémentaire qui est celle de l'intrafamilial, donc un obstacle vient s'ajouter à tout ce qui existe déjà. Et donc, tu as parlé de l'affaire de décembre 2020, donc très proche de nous, à Montpellier, il y a eu, ça a été rapporté par le site Saphir News, qui a recueilli la parole d'une jeune femme, Sarah. Elle a accusé son beau-père, imam, de l'avoir agressée sexuellement, alors qu'elle était mineure. Donc, et il a été mis en examen depuis juin 2020. Vous avez écrit un texte qui parle de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui rentrent là, dont on peut parler, qui est l'instrumentalisation à des fins islamophobes de la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles, la récupération, le fémonationalisme qui est... Alors, la question d'instrumentaliser la protection des victimes de violences à des fins racistes, en fait, islamophobes. Et est-ce que tu peux nous dire tout ce qui te... Toi, tu as été touché personnellement, donc tu as écrit ce texte sur l'importance de parler de ça.
C'est ça. Moi, j'ai tenu à prendre la parole pour plusieurs choses suite au MeToo inceste. D'abord, il y a vraiment cette spécificité communautaire qui font que dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui, quand t'es une femme, tu portes le voile, t'es musulmane, t'es nord-africaine, tu peux pas parler comme les autres victimes parlent, t'as pas du tout les mêmes enjeux. Quand t'es de classe populaire, ça ne renvoie pas du tout à la même chose. Donc il y avait ça d'une part, et il y avait aussi le fait que j'appréciais pas du tout la façon dont c'était traité politiquement, donc j'avais aussi un regard critique avec le fait qu'on nous proposait des réformes qui n'avaient pas trop de sens, à mon sens en tout cas, et qui n'avaient pas vraiment de solution, et que comme d'habitude, en fait, on était davantage concentré sur le fait de punir des agresseurs. D'ailleurs, on les punit jamais, donc je sais pas pourquoi on en parle encore. Au lieu de se concentrer sur les victimes et les besoins des victimes. Et en l'occurrence, les besoins des victimes nord-africaines, les besoins des victimes musulmanes, ils sont spécifiques. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une réponse, en fait, qui émerge de l'intérieur de la communauté, qu'il y ait une reconnaissance qui émerge de l'intérieur de la communauté, qu'il y ait une écoute qui se fasse à l'intérieur de la communauté, dans les familles, mais dans la communauté en général. Et une prise en charge, en fait, collective de ces questions-là. Ne serait-ce qu'en fait, ouvrir le débat dessus, c'est déjà très compliqué. un minimum de prévention dans nos espaces aussi. Parce qu'il y a aussi l'idée selon laquelle ce ne serait pas un truc de musulman, ce ne serait pas un truc d'arabe, c'est un truc de blanc, etc. Et ça aussi, il faut le déconstruire. Pas du tout, en fait. Hein. L'inceste est universel pour le coup. Et ouais, voilà, donc il y avait un peu tout ça.
Justement, c'est ce que tu disais par rapport à ça, c'est que, en fait, je vais te citer, tu dis que il y a une charge supplémentaire qui repose sur les femmes racisées avec une double violence à gérer. Tu es agressée et si tu parles, tu risques de voir les violences que tu as subies venir justifier d'autres violences racistes, cette fois que tu subis aussi. Et dans tous les cas, en fait, tu es perdante, c'est ce que tu dis. C'est justement cette double injonction à la fois à te protéger en tant que femme, mais à ne pas alimenter une forme de racisme qui va être instrumentalisée contre ton agresseur, mais qui va aussi rejaillir sur toi. Donc comment justement en tant que femme nord-africaine, mais de manière générale, non blanche, à naviguer entre ces deux injonctions?
En fait, je pense que c'est très compliqué, mais il y a d'abord le niveau individuel qu'il faut distinguer du niveau collectif. Mmh. Je pense qu'à l'échelle collective, on est obligé d'ouvrir le débat dans la communauté, on est obligé de dire, ok les gars, il y a le féminationalisme, il y a le racisme, mais il y a aussi nos vies, et nos vies comptent, donc on va discuter. Il y a ça à l'échelle collective. Après, à l'échelle individuelle, moi je pense aussi que le fait de sacraliser comme ça la nécessité de parler, etc., ça va remettre en question. Tout le monde ne peut pas parler. Et ne pas parler, ça ne veut pas dire ne pas être réparé, ne pas dépasser ce qu'on a subi. Ça, je pense que c'est important de le souligner. Enfin, je ne pense pas qu'il faille nécessairement, en fait, aller parler à toute sa famille des violences qu'on a pu subir, ouvrir les débats dans sa famille pour les dépasser, pour aller mieux. Après, il n'y a pas de souci à le faire, mais je pense qu'il faut vraiment sortir de ça, parce que ça invite des personnes à parler, alors que derrière, en fait, elles n'ont pas les ressources, en fait, pour accueillir les réactions qui sont nécessairement violentes. Donc, moi, je pense qu'à l'échelle individuelle, je parle de troisième porte, des fois, dans le sens où on nous propose souvent soit de se taire et de se murer dans un silence extrêmement violent, soit au contraire de parler, de se mettre tout le monde à dos, d'affronter sa famille et les siens pour aller je ne sais où. Et donc moi, je parle de troisième porte, en fait. Je parle de réparation centrée sur le soi. Je parle de... Enfin, en tout cas, c'est ma trajectoire à moi, en fait. Après, j'imagine bien que c'est pas valable pour tout le monde, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu les choses, que j'ai pu dépasser les choses, c'est que je me suis concentrée davantage sur ma propre personne, donc thérapie et tout ce qui m'a semblé nécessaire, plutôt que sur le fait d'aller confronter un agresseur ou le fait de le dénoncer auprès de tout le monde, etc. J'ai préféré me concentrer sur moi et reprendre le pouvoir et me soigner.
Sur la question spécifique de l'injonction à parler, dans ce texte, tu dis que cette injonction prend une trajectoire très différente dans les communautés nord-africaines notamment, mais voilà, je peux m'identifier tout à fait à ça, parce que le contexte post-colonial, le contexte post-migratoire fait que non seulement la famille, c'est le rempart contre le racisme. Donc c'est un espace dans lequel tu peux être toi-même, et le fait de prendre la parole pour dénoncer un agresseur qui serait au sein de la famille, quand on sait que 9 victimes sur 10 d'inceste sont isolées de leur famille, ça pose ce problème de s'exposer deux fois au danger. Et tu parles aussi de la question de la classe sociale qui est très importante, parce que le fait d'être isolé, et tu parles de ressources, donc c'est ça, c'est qu'une fois qu'on a parlé, qu'on a libéré l'écoute, si on se retrouve seul, en fait, c'est pas... La protection, elle ne va pas jusqu'au bout. Mmh. Donc ça, quand t'articules, et c'est vraiment ça la question intersectionnelle, c'est d'articuler toutes ces réalités et de montrer que, en fait, l'injonction à parler, c'est ce que tu déconstruis. C'est, comme tu dis, individuellement, on peut parler, on peut ne pas parler, on peut dénoncer ou ne pas dénoncer. Ça reste un choix où on pèse le pour et le contre en fonction de comment, où on va se retrouver à la fin de cette prise de parole. Et ce que tu disais tout à l'heure de... il faut ouvrir le dialogue au sein des communautés pour qu'il existe des mesures de protection, des mesures d'accueil de ces paroles-là, pour qu'il y ait une suite.
Oui, parce qu'en fait, c'est ça, ce que tu dis et ce que vient de dire Grace, c'est qu'on n'a pas forcément les moyens de parler. Parce que si tu parles, sachant que dans 9 cas sur 10, c'est la victime qui est exclue du cercle familial, si tu n'as pas d'autonomie économique, tu vas où? Et si, effectivement, ta famille te sert d'endroit où tu peux vivre normalement en tant que personne non blanche, puisque autour de toi, si tu n'es pas adoptée, en fait, les personnes de ta famille te ressemblent, ben, si tu perds ce filtre avec une société potentiellement violente, pareil, où vas-tu? Est-ce que c'est plus simple pour toi d'être exposé à la suprématie blanche sans environnement de protection? Donc c'est cette question-là aussi, de qui a les moyens de parler et de se protéger de cette situation de victime uniquement par la parole, quoi.
Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur l'injonction au sacrifice. Il y a une question de... il faudrait protéger des personnes dont un agresseur pour se sacrifier, pour protéger une entité qui est plus grande que nous. Et donc ça, c'est toutes ces charges qui reposent sur les femmes non blanches avec ces violences à gérer.
Oui, justement, tu parles de ça, de certains mouvements qui incitent en fait, à donner la priorité à la protection des hommes, en fait, de dire que ce qui est plus important, c'est de lutter contre le racisme et que du coup, si on est agressé par une personne qui est de la même origine que nous, en fait, on le dit pas trop parce que ça peut nuire en fait à l'ensemble du groupe, quoi.
Il y a l'idée selon laquelle en fait le patriarcat communautaire serait un héritage quelque part du colonialisme, ce qui n'est pas tout à fait faux dans le sens où les masculinités subalternes sont effectivement liées au, enfin il y a un rapport colonial qui s'opère, il y a une lutte des masculinités, des masculinismes sur nos corps qui s'opère, mais c'est pas pour autant que avant la colonisation c'était pas, on n'était pas dans un système patriarcal, et ça veut pas pour autant que une libération sur le plan racial nous permettrait d'avoir une égalité, une justice entre les genres.
Non, bah bon. C'est pas du tout automatique. Hein.
Voilà.
Ça n'est jamais arrivé historiquement, en tout cas. Donc, il n'y a pas de raison que ça arrive en France.
Ça, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je pense qu'aussi, il y a une nécessité de se définir et de se définir dans un horizon de libération qui dépasse ce que la blanchité attend de nous. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire, oui, mais ils nous disent que... en gros, comme les racistes vont avoir tendance à désigner les hommes nord-africains comme étant des hommes violents, etc., on est censé performer cette non-violence. Et parallèlement, les hommes nord-africains sont amenés à performer leur masculinité parce qu'elle est remise en question par la masculinité blanche. Et nous, notre propos, c'est de dire, mais en fait, on est quand même capable de se définir par-delà tout ça. C'est ça qui est nécessaire. Et c'est ça aussi le premier élan de libération, c'est peut-être de réfléchir justement à une société où on dépasserait toutes ces assignations et où, en fait, on vivrait juste au KLM, genre heureux et dans un monde juste et égalitaire.
Tu parles aussi des conséquences de la pression à la virginité sur la possibilité de dénoncer les violences sexuelles. Est-ce que tu peux rappeler une réflexion que tu as entendue par rapport à la dénonciation de violences sexuelles?
Ouais, je crois que la majorité des cas où j'ai parlé de violences sexuelles dans un cadre communautaire, et la première fois que je l'ai fait, on m'a dit « mais du coup, tu n'es plus vierge ».
Au lieu de soutenir. Enfin, ouais. La première
la
réflexion,
priorité, c'est ça.
C'est ouais, de se dire, en fait, tout d'un coup, on te valorise par rapport, en tout cas, on t'évalue par rapport à, non pas à la violence que t'as subie, mais par rapport à, au statut de vierge ou de pas vierge.
Ça, donc en fait, ok, là, je viens comprendre qu'il s'était passé des choses, mais du coup, dis-moi juste comment te situer, peut-être qu'on pourra continuer la conversation. Donc en fait, le principal objet de la discussion, c'était où me situer. Et c'est... moi-même, en fait, j'avais eu énormément de réflexions là-dessus, avant même d'en parler avec des proches, en me disant, mais du coup, ça se passe comment, de ce point de vue-là, etc. Et je me suis rendu compte que ça m'a énormément freinée, que ça a engendré un grand sentiment de honte et de culpabilité, que ça a peut-être, comment dire, agrandi la culpabilité qu'on retrouve déjà chez toutes les victimes, en fait. Et je trouve ça extrêmement grave et dangereux. Enfin, il y a vraiment tout à déconstruire et tout à repenser dans notre rapport à la pseudo-virginité et au corps des femmes.
Parce qu'en fait, c'est comme si l'importance qu'on pouvait accorder à la virginité dans certains cercles, finalement, faisait que la victime de viol, d'agression sexuelle, était doublement coupable et dévaluée. En fait, elle était dévaluée du fait de l'agression qu'elle avait subie et que finalement, la dévaluation était plus importante que le fait de la soutenir en tant que victime.
C'est ça. Mais moi, c'est des choses que... Enfin, ça peut paraître un peu lointain pour certaines personnes, mais... Enfin, mon enfance a été ponctuée de récits comme ça. Ma mère m'a jamais caché la réalité de ces choses-là en m'expliquant que, justement, telle femme était victime de viol et que, du coup, elle était partie parce que ça avait déshonoré sa famille, enfin, des choses comme ça. Mmh. Donc, moi, ça ne m'impressionne pas, enfin, ça ne me choque pas parce que, justement, j'ai été sensibilisée à ça très tôt par ma mère et heureusement, d'ailleurs. Enfin, ouais, il y a vraiment ce truc de renvoyer, en fait, à la valeur de la femme, enfin, valeur supposée de la femme au lieu de se concentrer sur les violences qu'elle a subies et ce qu'on peut lui apporter.
C'est ce que tu dis, hein, si je cite tes mots, tu dis dénoncer un violeur, c'est aussi une forme d'aveu de sa non-chasteté. Donc en fait, c'est vraiment là-dessus qu'on met l'accent plus que sur finalement le violeur, en fait, on cherche même pas à savoir qui c'est, quoi.
C'est ça. Donc en fait, dénoncer un violeur, en arriver à dire en tout cas, ouais, j'ai été victime de viol, j'ai l'impression qu'il faut d'abord, pour les victimes en tout cas, j'ai l'impression qu'il faut d'abord accepter le fait de ne pas être des femmes chastes. Et donc de dégager en fait toute cette catégorisation de femmes chastes ou pas chastes, de femmes pures ou pas pures, vierges ou pas vierges. En fait, il faut d'abord dépasser tout ça pour avoir une parole qui se libère sur ces questions de violence sexuelle.
Alors je propose qu'on écoute un son.
Cette jeune femme musulmane de 22 ans, que nous appellerons Léa, est venue chercher ici un certificat de virginité.
Vu que je suis d'une famille qui pratique la religion, c'était pas permis pour moi de venir sans être vierge.
Qu'est-ce que tu craignais ?
Ben, d'être nié par mes parents.
Un certificat à entête médicale attestant la virginité d'une femme par la présence d'un hymen intact, sans échancrure ni rupture. Une exigence dans certains milieux traditionnalistes, mais qui reste très rare en France. Les députés l'ont interdit cet après-midi, au nom du droit des femmes. Les médecins qui en délivrent risquent un an de prison et 15 000 euros d'amende.
Alors déjà, avant de poursuivre, je pense que c'est important de rappeler quand même que l'hymen et la virginité n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette croyance très ancienne qui croit qu'en fait la virginité est forcément visible. Et encore même le terme de virginité, il faut aussi le déconstruire parce qu'il y a toujours cette idée de pureté derrière. Mais c'est pas forcément quelque chose qui soit visible physiquement. Donc c'est déjà quelque chose qu'il faut déconstruire. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans cette question d'actualité qu'on a beaucoup entendue dernièrement, c'est justement comment on arrive à la fois dénoncer ces injonctions qui existent dans certains espaces, dans certains milieux, sans forcément prêter le flanc, justement, à un agenda manifestement raciste, politique, qui va stigmatiser, encore une fois, une partie de la population en prétendant qu'elle a des rites extrêmement spéciaux et problématiques, particulièrement pour les femmes, quoi.
Ouais. Alors, dans cette question des certificats de virginité, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses, mais je pense que d'abord, enfin, je vais tout de suite préciser, je parle en tant que féministe. En tant que féministe, ce qui m'intéresse, c'est la sécurité des femmes, leur bien-être, leur libération. Donc, à partir de là, je me détache, en fait, des objectifs de punir les hommes, de forcément pénaliser, etc. C'est pas forcément vers là que je me dirige. Donc, ça, c'est une chose. Du coup, ça pose la question plutôt de savoir si ces interdictions des certificats de virginité sont vraiment utiles. Donc, est-ce qu'il faut interdire un certificat de virginité pour ne plus en avoir? Par quels moyens il faudrait passer, en fait, pour veiller à ce que ces certificats n'aient plus lieu ou plutôt ne soient plus demandés? Parce que là, en l'occurrence, les femmes qui auront besoin de ces certificats, si elles ne peuvent plus en avoir, moi, je me demande bien qu'est-ce qu'elles vont faire? Vers qui vont-elles se diriger? Qui va les prendre en charge? Qui va les écouter? Certainement pas les personnes qui ont voté l'interdiction de ces certificats. Et d'ailleurs, les médecins qui ont pour habitude d'en faire l'ont très bien signalé pendant toute la discussion de la loi séparatisme. Donc je trouve ça extrêmement grave. Et parallèlement, en fait, ce que je tiens à mettre en exergue ici, c'est que autour de ça, il y a vraiment un paradoxe qui est assez immense et qui en dit long sur les intentions du coup de la législation autour de ça. C'est que dans le même temps, on va restreindre les libertés d'organisation des associations, en l'occurrence des associations féministes aussi. Et donc, on va avoir davantage de contrôle de leurs activités, donc beaucoup moins de liberté associative. On va contrôler les financements, les restreindre, etc. Donc ça, c'est une chose. Et de l'autre, on va prétendre vouloir sauver des femmes, alors qu'on sait très bien que les femmes ne se sont jamais libérées que par elles-mêmes. Je pense que c'est évident pour tout le monde. Il n'y a jamais un moment dans l'histoire de l'humanité des hommes qui sont venus et qui ont dit « Bon, voilà, c'est bon, les meufs, on vous libère. » C'est pas comme ça que ça se passe. Donc en fait, si on veut que les femmes se libèrent, il faut peut-être leur laisser les libertés de s'organiser entre elles. Donc moi, je suis d'accord pour qu'on s'oppose au certificat de virginité. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense que c'est évident. Même si effectivement, vu leur nombre, je ne pense pas que ça soit une priorité en France aujourd'hui. Enfin, je veux dire, en tout cas, pour les femmes nord-africaines, c'est pas une priorité. Mais dans ce cas-là, moi, je veux qu'on donne aux femmes, en fait, les moyens de le faire par elles-mêmes, si elles jugent que c'est la priorité, et donc de se libérer par elles-mêmes, parce qu'il n'y a pas d'autre libération qui puisse être réalisable.
Se libérer par soi-même, c'est une excellente conclusion.
Ouais.
Merci beaucoup, Lisa.
Merci.
Merci à vous.
Merci à vous aussi d'avoir écouté ce numéro spécial de Kif Taras avec Lisa, cofondatrice du collectif féministe et antiraciste Enta Rajal.
C'est bien, je dis avec une voix douce comme
tout
ça,
du
suave.
Long, tout du long, là, je suis, voilà, j'ai bien dit.
Mais on peut toujours pas adhérer.
N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions qui, je suis sûre, seront nombreuses sur cet échange que nous venons de mener. N'hésitez pas à aller consulter les textes écrits par le collectif qui sont disponibles sur leur site, sur aussi d'autres supports comme Women Who Do Stuff. Et avec les hashtags Kiftaras sur Twitter, Facebook, Instagram, et aussi nous écrire à kiftaras@binge.audio, nous suivre sur notre page Instagram, sur notre page Facebook et sur notre Twitter.
Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Adalitel Elmadani. Merci à Camille Regache et à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grace.
Merci Rokaya.
Merci Lisa.
Merci Lisa.
Merci à vous.